Alors, on va résumer le début du chapitre 30. Allez. On a commencé la semaine dernière le chapitre 30. Je vous donne la page.
Ah,
s'il vous plaît. Donc, on va commencer un grand thème. On va faire, je pense, en 2-3 cours. Et la vérité, c'est qu'on pourrait passer même plus que 2-3 cours sur le thème.
On pourrait passer plusieurs années.
C'est un thème qu'on peut, étudier rapidement en théorie, mais en pratique, ça prend beaucoup de temps.
C'est pas chez quelle page?
Attends, j'ai pas encore donné la page. On a dit, c'est écrit dans Pirkei Avot, dans la Maxime de nos pères. C'est écrit, ve'eveshfal ruar bifne kol ha'adam. Le Torah dit qu'on doit se sentir pas seulement humble, cheval rouard, bas, plus bas que tout le monde. Ce qui est très compliqué. C'est la fameuse question qu'on a posée la semaine dernière. À la limite, si on parlait d'humilité, je peux me dire, bon, rappelez-vous la définition qu'on a donnée dans l'humilité la semaine dernière. On a dit, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est, je me dis, c'est vrai que moi j'ai plus de qualités que Monsieur B, mais si Hachem avait donné mes facultés à Monsieur B et mes qualités à Monsieur B, ce monsieur les aurait certainement utilisées mieux que moi. Ça, c'est facile, ça. On est parti beaucoup plus loin que ça dans le Pirkei Avot. On a dit ve'eveshfal ruar bifne kol ha'adam, qu'il faut se sentir plus petit que n'importe quelle personne. Et on a dit, quand on dit que n'importe quelle personne, ça veut dire même devant des gens que leur seule qualité est d'être des créature de Dieu. Même devant une personne comme ça, je dois me sentir petit.
Quelqu'un qui est débile.
Attends. Vas-y d'abord. Comment c'est possible? Je veux bien me sentir petit devant quelqu'un qui est plus grand que moi. Je veux bien me sentir petit devant quelqu'un qui est à la limite au même niveau que moi ou légèrement en dessous de moi. Mais comment tu veux que je me sente petit devant une personne qui est là en train de faire des erreurs toute la journée? Moi, je me sens plus petit que lui? Mais non, c'est faux. Et si je veux dire que je suis plus petit que lui, c'est faux. Alors, on a expliqué que la clé de la réponse, on va pas la donner tout de suite la réponse, c'est une réponse qu'on va développer. La clé de la réponse se trouve dans une autre Mishnah de Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y a une autre Mishnah, dans le chapitre 4, qui dit comme ça, qui dit, chapitre 2, qui dit, Al tadi ne traversera achetagia l'inkomo. Ne juge pas ton prochain, tant que tu n'es pas à sa place. Alors, en fait, ce qu'on a fait maintenant dans le cours, on a dit qu'on va structurer le chapitre 30 en 3 points. Enfin, 3 points. Donc, on va avoir une démarche intellectuelle. Le but de cette démarche intellectuelle, c'est d'expliquer comment même le plus grand des rabbins doit se sentir petit devant le plus grand des rachats. Comment c'est possible?
Ouais.
A priori, c'est impossible. Mais c'est écrit, c'est ce qu'on attend de nous. C'est écrit clairement dans Pirkei Avot. Comment on peut arriver à ça? Alors, on va développer ça en 3 points. C'est une démarche intellectuelle, logique, structurée, qui va être construite sur 3 points. Premier élément, je vais expliquer comment je ne peux pas juger mon prochain. Deuxième élément, je vais expliquer comment, sur le même type de challenge que lui, il a, moi, je n'arrive pas à tenir, qu'on va expliquer. Et troisième point, on va expliquer que finalement, je fais même pire que lui. C'est très révolutionnaire parce que concrètement, d'un côté vous avez une personne qui est rabbin, d'un autre côté vous avez une personne qui est en train de rouler en Ferrari ou en Porsche comme tu veux le jour de Kippour. Avec le jambon beurre. Et tiens, vas-y, la fille à côté. D'accord? Et moi je dois me sentir pire que lui?
Si tu pousses là.
Comment ça marche? C'est impossible. Dis-moi, ferme les yeux, mais ne dis pas je me sens plus petit que lui. Alors, on a expliqué la semaine dernière, un point important, en préambule, avant de commencer. On a dit, on peut pas dire que ce qu'on attend de nous, c'est faux. C'est de me dire, dis-toi que tu es plus petit que lui, mais en vérité, au fond de toi, tu sais que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la Torah veut pas de mytho. Quand la Torah dit quelque chose, c'est la vérité. Si la Torah me dit que je dois me sentir plus bas que l'autre, ça veut dire que je dois réellement le sentir. Pas que je me dis, oui, bon, je le dis, mais en vérité, au fond de moi, non, ça marche pas, ça. Toi, tu perds ton temps. C'est pas chez nous, ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire, je pense que, mais en vérité, au fond de moi, je pense le contraire, ça sert à rien. Exemple, les Avzil. Une fois, il y a un curé, à l'époque de l'Achmanide. Il disait autour de lui qu'il était quelqu'un de très humble. Il avait une renommée qu'il était très humble. Comme ça, on disait de lui. Alors, une fois, Nachmanide, il aimait bien titiller les gens. Une fois, Narmanide, il voulait un peu le piquer. Il lui a dit, dites-moi, sans vouloir vous blesser, mais j'ai une question à vous poser. C'est écrit dans la Bible, vous croyez en la Bible, l'ancien... Non, bien sûr, hein. C'est écrit dans la Bible que Moïse est l'homme le plus humble que la terre ait connu. Comment c'est possible? Il y a vous? Il lui pose la question comme ça au curé. Et le curé, il répond, il dit, c'est une très bonne question, je me la suis posée, j'ai pas encore trouvé la réponse. Hein? Vous commencez de ça. Ou bien vous connaissez pas cette histoire aussi. Une fois, hein, il y a un jeune homme, il est en âge de se marier. Alors, ça c'est des histoires pour montrer que l'humilité, on peut pas faire de fausse humilité. Fausse humilité, ça marche pas. D'ailleurs, même en français, on parle de sa fausse humilité. Pas au retard de Daniel, je quand même dire.
Amen.
Amen.
Une fois, une personne. C'est pour entrer en matière. Bonsoir.
Bonsoir.
Une fois, il y a une personne, un jeune homme, qui est en âge de se marier. Et on lui présente des filles, etc. Le mari, on lui présente des filles, une fille, deux filles, etc. Et chacune lui trouve un problème. Une, la famille n'est pas assez bien, l'autre, etc. Chaque fille trouve un problème. Alors, à la fin, le mari, il n'en peut plus. Le mari, il n'en peut plus. Il lui dit, écoute, t'as certainement plein de qualités. Mais il te manque une grande qualité. Tu devrais travailler un peu sur l'humilité. T'entends, Serge?
Oui.
Et donc, le mari, il lui dit, écoute, tu devrais travailler un peu sur l'humilité. C'est pas possible. Toutes les filles qu'on te présente, tout le temps, tu dis non. Alors, le jeune homme dit, d'accord, je vais me travailler. Entre temps, il ne trouve pas de fille. Un an plus tard, le mari revient à la yeshiva et il propose une nouvelle fille à ce garçon. Une fille bien. Bon, on propose. Quelques jours plus tard, le jeune homme dit, non, je suis pas intéressé. Il dit, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Il dit, mais attends, je suis encore mieux que l'année dernière maintenant. Parce que l'année dernière, j'avais pas encore la qualité de l'humilité. Maintenant, j'ai la qualité de l'humilité. Je suis encore mieux que l'année dernière. Tu me proposes une fille comme ça?
Mais j'ai tout compris.
Ça veut dire que ce que je montrais par là, c'est qu'on ne parle pas ici de fausse humilité ou de fausse modestie. Ça ne marche pas, ça. On veut de la vraie modestie. Ce qui est impossible, a priori. Comment tu veux que je me sente petit devant une personne qui est un grand rachat? Donc, on a expliqué qu'on va développer trois points. Premier point, d'abord, c'est que je ne peux pas juger mon prochain tant que je ne suis pas à sa place. Ça veut dire quoi que je ne peux pas juger mon prochain tant que je ne suis pas à sa place? On a expliqué que très souvent, une personne faute à cause de quoi? Faute à cause de l'environnement dans lequel il se trouve. Il est toute la journée au marché et il voit ce qu'il devrait pas voir, etc. Il a un yetzara qui est chaud, on a expliqué, comme le four. Vous rappelez ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Et donc, bien sûr que ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Bien sûr que s'il a un gros yetzara, il a aussi un gros moteur. Vous savez, quand tu as un gros moteur, il faut un gros refroidisseur à côté. N'est-ce pas, Serge, hein? Quand tu as un gros moteur, qu'est-ce qu'il faut à côté?
Un radiateur, hein?
Radiateur énorme. Une fois, Serge m'a expliqué que dans les voitures, quand tu as un gros moteur comme ça, t'as la moitié de la voiture, c'est que le système de refroidissement.
Ah oui.
Hein, ce que tu m'expliques une fois.
Bien sûr.
Donc, si une personne, Hachem, il a donné un gros yetzara, ben, il lui a donné aussi un gros refroidisseur, c'est évident. Sinon, il brûle. Donc, c'est pas une excuse. On n'est pas en train de dire que ce que l'autre a fait, c'est bien. Mais on te dit, tu peux pas le juger. Tu peux pas le juger parce que t'es pas comme lui. Et tu sais pas comment toi, comment moi, j'aurais réagi à sa place. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on a expliqué. Et on s'est arrêté dessus la semaine dernière. Et là, on va reprendre. Il dit, finalement, qu'est-ce que tu lui reproches à l'autre? Tu lui reproches de ne pas faire des efforts. Et tu dis, oui, pourquoi? Et il a fauté, et il est passé, et il est là à faire des remarques à des filles, etc., faire des trucs, etc. Tu dis, pourquoi il fait ça? Pour qui il se prend? Tu dis, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a des tentations qui sont très fortes, que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu es assis dans un bureau toute la journée. Tu sais pas ce que c'est les tentations qu'il a, lui. Alors tu le juges, ok, pas de problème. Pourquoi tu le juges? Tu lui dis, pourquoi il fait pas des efforts? D'accord, pourquoi il fait pas des efforts? Mais est-ce que toi, tu attends de toi les mêmes efforts que tu attends de l'autre? Tu dis, non, mais moi, je tire pas aux filles, moi. Non, c'est pas de ça que je parle. Est-ce que la même marge d'effort relative que j'attends de moi, que j'attends de lui, est-ce que j'attends de moi aussi? Exemple, on avait donné l'exemple des poids la semaine dernière. Si par exemple, d'accord, j'ai devant moi un enfant. Il porte 5 kilos, mais je sais qu'il peut porter 10. Je dis, mais pourquoi il porte pas 10 kilos et qu'il peut porter 10 kilos? C'est vrai, il peut porter 10. Mais il porte 5, il porte pas 10. Donc je le critique, je dis, ouais, tu portes 5, tu aurais pu porter 10. Je dis, d'accord. Pour le juger, il faut lui poser la question, moi, combien de kilos je peux porter? Je peux porter 50 kilos? Est-ce que moi aussi, au lieu de porter 25, je porte 50? C'est facile de dire, oui, mais moi je porte 10. Non, mais toi, on sait que tu portes 10. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu attends la même marge d'effort relative que tu attends de lui? Est-ce que la même chose, tu le fais pour toi? C'est-à-dire, si lui, tu attends qu'il passe de 5 à 10, est-ce que toi aussi, tu passes de 25 à 50? Donc, pour revenir à notre sujet, moi, j'attends de lui qu'il se retienne et qu'il fasse Messirut Nefesh, qu'il fasse don de soi de pas fauter. Parce que c'est très dur pour lui de pas fauter. Pour lui, lui demander de pas fauter, c'est aussi dur que déraciner une montagne. Il peut le faire, mais c'est très dur. Est-ce que moi, les choses qui me sont très dures, je les fais aussi? Alors, c'est quoi les choses qui me sont très dures? Par exemple, avoir la kavana dans la tfila. Moi, je suis religieux. Mais qu'est-ce qui est difficile pour moi? Tu vas me demander, par exemple, de me concentrer, de faire une tfila pendant 2 heures. Je n'arrive pas. Tu dis, oui, t'arrives pas. Ah, t'arrives pas. Est-ce que tu attends de toi de faire un effort monstrueux pour te surpasser autant que tu attends de l'autre de faire un effort pour te surpasser? Donc là, on passe à la phase 2. Dans la phase 1, qu'est-ce qu'on a dit? Ne le juge pas parce que t'es pas à sa place. Dans la phase 1, je me retire. Je dis, il y a lui, il y a moi. Dans la phase 2, je me retire pas. Dans la phase 2, je me mets au même niveau que lui, mais au même niveau relatif. Je me dis, est-ce que je fais les mêmes efforts relatifs que j'attends de lui? Et on va donner des exemples, tout de suite. Et là, c'est pour ça que j'avais dit qu'on allait donner des exemples aujourd'hui. Alors, on va prendre, donc on est au chapitre 30.
Page 56, hein?
Voilà.
Page 56.
On va prendre la page 59.
Page 59.
Alors, les quelques premières lignes, on les a déjà faites la semaine dernière, mais on va les reprendre. Surtout qu'il y a plusieurs qui n'étaient pas là. Ouais. Les Kranouka, tout ça. Alors, Veilkar, page 59 au milieu de la page. Veilkar, c'est pour cela. Là, on passe à la phase 2. Phase 1, c'était, je dis, je ne juge pas l'autre parce que je suis pas à sa place. Mais bon, je me suis retiré. Phase 2, je vais me comparer à l'autre, mais relativement. On va expliquer tout de suite. Veilkar, c'est pour ça, tsarir kol adam, chaque homme doit le fi mache ou mekomo ou madrigato bavodat Hashem. Chaque homme, par rapport à son niveau dans le service de Dieu, il doit lishkol velifron beatzmo. Il doit peser et sonder en soi-même. Im ou oved Hashem be'erer ou prinat milchama atzuma venisayon kaze. Est-ce que moi, je me bats? Est-ce que moi, je vais partir en guerre contre mon Yitzhara avec un tel effort, avec une telle guerre? Biprinat va à cet homme, une telle guerre que j'attends de l'autre. Par exemple, Kegon, ba'avodat atfila be'kavana. Par exemple, la tfila, normalement, on doit la faire de toute la kavana. L'ishpor nafsholifne Hashem, de verser son âme, d'épancher son âme devant Dieu, bechol koro mamash, de toute sa force, admitsu yenefesh, ce qui est une guerre. Parce que, ça veut dire, chacun de nous, par exemple, je sais par exemple qu'une personne qui a l'habitude de se concentrer dans la tefila pendant 1 heure, tu lui demandes de faire 2 heures de tefila, c'est un calvaire, il n'arrive pas. Ça veut dire, 7 heures de tefila que tu lui demandes de rajouter, il a l'impression que c'est comme si qu'il a fait Messirut Nefesh, c'est comme si qu'il a donné sa vie. Et il ne le fera pas. Alors je pose la question, je dis, regarde, toi tu attends de l'autre, tu dis, pourquoi l'autre il va faire des bêtises? Mais est-ce que, lui c'est très difficile pour lui de ne pas faire des bêtises, c'est extrêmement difficile. Est-ce que moi aussi, dans les choses qui me sont extrêmement difficiles, est-ce que moi aussi je fais des efforts? Donc on a donné quelques exemples. On va commencer par l'exemple de la tefila. Premier exemple. Bon, vous allez me dire l'exemple de la tefila, bon, c'est relatif. Deuxième exemple, on continue. Il dit, Uleilachem im gufo venefesh avimitchebo amon im bekavana atsuma amon im akavana mimilchama atsuma. Que bien sûr, chacun de nous, lorsqu'on veut faire la tefila, lorsqu'on veut faire notre amida, lorsqu'on va voir la kavana, qu'est-ce qui se passe? Il y a des monstres qui viennent autour de nous pour pas nous laisser faire la tefila. On le sait tous, on fait tous notre tefila, on sait ce que c'est. Et donc, ces monstres, ils reviennent. Shacharit, Mincha, Ve'arvit. Ils reviennent. Ils sont là. Le matin, le soir, tout le temps, ils sont là. Est-ce que moi, je me bats avec eux? Autant que j'attends l'autre de se battre avec son Yitzhara. C'est pas fini. Ve'gam Be'cha tefila. Pendant la prière aussi. D'accord? Il y a déjà préparation avant la prière. Même pendant la prière. Pendant la prière. Le yagea atzmo biget nefesh biget bazar kemoshe de berle kamen barichut. Mais ça, on verra plus tard. Donc, rol chez le yagea, c'est là où je voulais arriver. Je suis en bas de la page 60. C'est là où on s'arrêtait la semaine dernière. Rol chez le yagea l'idée midazo, tant que je ne suis pas arrivé à ce niveau d'effort. Le ilachem imgufo milchama atzuma kazo, de me battre avec mon corps. C'est-à-dire, finalement, on se fait violence. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, mon corps veut quelque chose, et je dis non, tu ne l'auras pas. Alors, quand c'est une personne qui est religieuse, sur quoi il se fait violence? C'est que son corps lui dit, écoute, une heure de prière, ça suffit. Et se faire violence, il dit, non, je vais faire deux heures de prière. Est-ce que je me fais violence? Non, je me fais pas violence. Je fais ce que mon corps me dit. Mais quand il dit une heure, je fais une heure. Dis-toi que le même effort que ce qu'on attend de moi, qui est difficile pour moi de passer de une heure à deux heures de prière, ben c'est exactement le même effort que l'autre va avoir pour ne pas succomber pour une femme. Parce que lui, il n'est pas dans la Torah. C'est exactement la même marge d'effort. Donc, non seulement je ne peux pas le juger, mais en plus, honnêtement, quand je me mets au même niveau que lui, au niveau d'effort relatif, ben quelque part, je suis au même niveau que lui. Je suis au même niveau que lui parce que je ne fais pas mieux que lui. On continue, on va donner des exemples. Et donc, il dit, on va passer à la page 61, d'accord? Vechen, pareil. On va donner deux, trois exemples. Le Inyan, Be Inyan, Birkat Amazon. Parlons du Birkat Amazon. Alors là, bon, tu vas me dire encore, il y a des gens, la tefila, ils arrivent à se concentrer. Parce que c'est facile, la tefila. Tu te prépares avant, tu arrives à la synagogue, tu éteins le téléphone portable, j'espère, d'accord? Tu poses tout de côté, tu oublies tout ce qui s'est passé avant, tu oublies ce que tu as dit à madame, ce que tu as dit à un tel, ce que tu as dit à un tel, tu oublies tout maintenant, la tefila. Pense à quatre jours. Bon, ça, c'est encore, ça veut jouer. Mais il y a des choses qui sont dans la journée. Des tefilotes qui sont pendant la journée, pendant lesquelles on te demande d'avoir la kavana. Par exemple, Birkat Amazon. Bon, j'ai mangé, c'était bon, bah, au Hachem, viens faire Birkat Amazon. Mais quelle kavana, genre, dans Birkat Amazon? Non, j'ai déjà la tête dehors. Ça veut dire, je vais lire le texte, mais ma tête est déjà dehors. Est-ce que je vais penser à chaque mot du Birkat Amazon que je remercie Hachem d'avoir mangé, et je remercie Hachem qui m'a donné tout ça? Tu vas t'éteindre. Pas seulement ça. Il y a des bénédictions qu'on fait avant de manger. Quand tu as un beefsteak devant toi et qu'on dit attention, il faut faire une bracha. Hein? Baruch, Ata, Hachem, Elokeinu, Amen. À quoi je pense pendant cette bracha? Bonsoir.
Au steak.
D'accord? J'ai la tête ailleurs. Et quand tu dis non, mais attends, la bracha, fais-la avec kavana, mot pour mot, un mot par seconde, je dis attends, si tu me demandes le mot, tu me demandes la lune, là, c'est pas possible. Donc je dis, je comprends pas. Tu vois bien qu'il y a des choses pour toi, donc pour moi, qui sont difficiles, que je devrais faire, mais que je ne fais pas. Pourquoi je ne fais pas? Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas cachère, ma bracha elle est cachère. Mais je ne les fais pas. Pourquoi je ne les fais pas? Parce que c'est difficile. Par exemple, la kavana dans la tefila. Par exemple, la kavana dans le Birkat Amazon. D'accord? Par exemple, la kavana dans les bénédictions. Donc, Vechen, pareil. Page 61. Beinyan Birkat Amazon, concernant le Birkat Amazon. Vechol birkot anenim, ainsi que toutes les bénédictions qu'on fait avant de profiter de ce monde-ci. C'est ce qu'on étudie actuellement dans le Rambam. Vous savez que, on fait une bracha sur pratiquement chaque chose qu'on profite de ce monde. Tu prends une bonne odeur, tu fais une bracha. D'accord? Tu entends une bonne nouvelle, bracha. Sur chaque profit que j'ai dans le monde, c'est quoi mon réflexe number one? Je dois bénir Dieu.
Il n'y a pas de bonus pour le petit Michael.
Même sur des choses qu'on n'a pas de profit, on fait des fois.
Si, j'avais un million de profit.
Comment?
J'avais un million de profit.
Chaque bracha?
Chaque chose que j'en profite, je fais une bracha, bien sûr.
Il y a des brachas sur lesquelles on n'a pas de profit.
C'est normal.
Qu'on voit une grande, la mer.
Ah, ça, c'est pas lié au profit, ça, c'est lié à la grandeur d'Hachem.
Voilà.
Là, je parle pas de ça. Là, je parle délicieux. Je parle volontairement des choses qui sont liées au profit, parce que dans les choses qui sont liées au profit, je pense d'abord à moi. Et c'est difficile quand je pense à moi de dire je pense à Dieu maintenant. Franchement, honnêtement, entre nous, quel kavana on a déjà quand on fait un Birkat Amazon, quand on fait une bracha, quand on fait une bénédiction avant de manger, après avoir mangé? Pas grand chose.
On devrait.
Alors maintenant, on devrait. Tu comprends? On devrait, bien sûr qu'on devrait. Mais tu comprends que concrètement, on le fait pas comme on devrait le faire. Même celui qui le fait, il fait pas comme il devrait le faire. Il fait pas avec une grande kavana. Alors je dis, je comprends pas. Je dis, tu vois bien que toi, dans les choses qui sont difficiles, tu les fais pas parce que c'est difficile. Ben dis-toi que la même chose, c'est aussi pour difficile pour l'autre. Sauf que c'est relatif. C'est pas sur la même chose. On va continuer. Donc, Vechol Birkot Aneinim. Donc, toutes les bénédictions avant de profiter. Vea Mitzvot. Et avant de faire Mitzvot. Bekavana. Tu mets les tefilines. Allez. Demain matin, on va mettre les tefilines. D'accord? Tout à l'heure, on va lire le schéma. Avant de faire le schéma. On va faire une bénédiction. Quel kavana on aura? Quel kavana on aura? Demain matin, tu vas faire Asher Knezotelon et Artefilin. Quel kavana tu auras? On est toujours, quand on fait une bracha, en train de penser à ce qu'on va faire après. C'est horrible, mais c'est que c'est la vérité. Ça veut dire que quand tu vois, j'ai un verre devant moi, je vais faire Shakon et Midvaro, je pense pas au Shakon et Midvaro. Je pense au verre qui m'attend.
L'intention,
c'est vrai.
Quelle intention? Où est l'intention?
C'est l'intention.
Quelle intention? Alors, bien sûr, c'est mieux que rien. C'est très bien. Quoi, la cavode. T'inquiète pas, on n'ira pas en enfer. C'est pas la question. Hein? La question n'est pas là. La question est, c'est un effort pour moi quand j'ai très soif et que j'ai un verre devant moi, de me dire, attends, prends 10 secondes pour faire ta bracha. J'ai pas la tête à ça maintenant.
J'ai envie de boire.
Je le fais pas, je veux boire. Donc si je ne le fais pas, si je fais pas des efforts dans les choses qui me sont difficiles, comment tu veux attendre, de moi, de l'autre, que lui aussi, il fasse des efforts dans les choses qui lui sont difficiles? Il les fait pas. D'accord? Ve'ain tsarich lomar kavanat amitzvot lishman ve'chen be'inyan. Là, il donne des exemples. Hein. La liste n'est pas exhaustive, mais il donne des exemples. Il dit, quand tu fais la mitzvah elle-même, est-ce que j'ai la kavana de la mitzvah? Voilà, demain matin, on va mettre les tefilines. Est-ce que je vais avoir la kavana quand je mets les tefilines? À quoi ça sert les tefilines? Pourquoi je mets les tefilines? Tout à l'heure, on va faire kriat shema. Est-ce que je vais avoir la kavana pourquoi je fais le kriat shema? J'ai mes mitzvot à la porte. Est-ce que j'ai la kavana pourquoi j'ai mes mitzvot? Toutes les mitzvot qu'on fait. Est-ce que j'ai vraiment la kavana? Bien sûr que non. À bout d'un certain temps, on tombe dans la routine. Il y a un Shabbat qui va arriver. Est-ce que le Shabbat, quand je serai devant le repas de Shabbat, en train de manger ma dafina, je vais dire, je mange la dafina, lire votre Shabbat Kodesh. Pour le kavod de Shabbat, pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que j'y pense à tout ça? Peut-être des fois.
On comprend pas.
Alors, c'est pas des critiques. Je dis pas ça pour critiquer. Je dis pas ça pour dire que c'est pas bien ce qu'on fait, on arrête tout. C'est pas le but. Le but, c'est de dire, je critique les autres qui ne font pas les mitzvot, mais pour eux, la marge d'effort de passer à 0 à 1, c'est la même marge d'effort pour moi que de passer de 1 à 1,10. C'est la même chose. Lui, c'est un enfant, moi, je suis un adulte. Donc, tu peux pas le juger. Pourquoi tu peux pas le juger? Parce que ce que j'attends de lui, je le fais pas moi. Pour lui, de passer à 0 à 1, c'est aussi dur pour moi que de passer de 1 à 1,10. Et je le fais pas. Une fois que je suis à 1, je reste à 1. Donc, c'est pour nous montrer que vraiment, faut faire attention de ne pas juger. Parce que, d'abord, on sait pas dans quel état est l'autre. On sait pas ce qu'il a dans la dette. On sait pas à quel point c'est difficile pour lui. Et en plus, l'effort que j'attends de lui, moi-même, je le fais pas dans la vie. C'est la vérité. Même quand on fait teshuvah, au bout d'un certain temps, on prend une vitesse de croisière, et après on reste. Et on dit, quand t'arrives à Kippour, tu dis, bon Dieu, écoute, j'ai réussi à tenir le cap, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, voilà ce que tu dis à Dieu. C'est déjà pas mal, hein. Il y en a qui sont dehors, moi je suis là, regarde, moi je suis là, hein, voilà, je suis là. Ce qui est pas faux. Mais où est l'effort? Où est l'effort? Alors, tu fais pas d'effort pour toi. Ne critique pas le fait pas d'effort.
Une fois, il y a 10 ans ou il y a 5 ans.
Alors, ne critique pas l'autre qui fait pas l'effort. Parce que l'autre, chaque fois qu'il ne doit pas succomber, c'est un effort. Donc, ne le juge pas. Maintenant, on va donner encore d'autres exemples pour nous. Pour montrer à quel point, hein, on peut pas juger parce que nous aussi, dans les choses qui nous demandent des efforts, on ne les fait pas. Alors bon, là, ce qu'on a dit, c'est des exemples qui sont un peu légers. On a donné l'exemple de faire une tefila avec plus de kavana, une bracha avec plus de kavana. On a donné l'exemple aussi de faire une mitzvah avec plus de kavana. D'étudier la Torah, vechen, pareil. Dans l'étude de la Torah. Alors voilà. Imaginons quelqu'un qui étudie la Torah, hein, 3 heures par jour. C'est quoi son effort? C'est quoi sa marge d'effort?
Tu
étudies 3 heures et quart par jour. Maintenant, il va dire, mais j'étudie déjà 3 heures. C'est déjà très bien. Il dit non. Tu vois, regarde l'effort que ça te prend à toi de passer de 3 heures à 3 heures et quart. Ben, c'est le même effort que l'autre, il a de passer de 0 à 1 quart d'heure. C'est le même effort. Moi, je le critique, je dis, mais pourquoi il vient pas là? C'est même pour un quart d'heure de cours. Je dis, regarde-toi, tu t'es habitué à 3 heures. Est-ce que tu es capable de rajouter un quart d'heure?
Oui.
Je dis, attends, je fais déjà 3 heures. Non, bien sûr qu'il est incapable.
Tu vois?
Bien sûr qu'on est incapable. C'est très difficile de rajouter sur ce que tu fais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, quand tu fais déjà quelque chose, d'accord, je te demande de rajouter quelque chose, c'est très difficile. Quitter la routine, c'est très difficile. Quand tu me demandes d'étudier plus que ma nature, c'est très difficile. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié dans le chapitre 15. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié dans le chapitre 15. À l'époque, ils révisaient combien de fois leur étude?
100 fois.
100 fois, Chazak. D'accord? Et on dit que celui qui révisait 100 fois était appelé une personne qui ne sert pas Dieu. Oui. Celui qui révise 101 fois, lui, on dit, lui, il a servi Dieu. Lui, c'est un serviteur de Dieu.
Pour une fois, tu peux le faire.
Je dis, mais attends, si t'as fait 100, rajoute une. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit non. On a dit, comme à l'époque, l'habitude était de réviser 100 fois, la 101e fois, elle demande plus d'efforts que les 100 fois ensemble. Parce que les 100 fois, c'est déjà acquis. C'est comme si moi, tu me dis par exemple, venir à la synagogue le Shabbat. C'est acquis, c'est pas un effort. Peut-être que pour d'autres, pour moi, c'est un acquis. Quand tu me dis par contre, dans ce que tu fais déjà, rajoute quelque chose, là, je dirais, ah, ça, j'ai pas l'habitude.
Ou viens plus tôt.
Ou viens plus tôt, etc. Ça, c'est un effort. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est un effort. Chacun se retrouvera. Chacun se retrouvera. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on avait donné un exemple, c'est-à-dire, on avait donné la Gemara avait donné un exemple avec les, comment on appelle ça? Ceux qui, enfin, c'est les taxis de l'époque, d'accord? cochers. Pas les cochers, comment on appelle ça, les chameliers, voilà, les chameliers. Alors en fait, les chameliers d'époque, les marins racontent, quand on prenait la route et on leur demandait de faire 10 par ça, 10 par ça, c'est l'équivalent, c'est un peu moins de 10 km. Ils prenaient une pièce. C'est une pièce de l'époque, enfin, d'accord, une belle pièce. Si on lui demandait de faire 11 par ça,
zone A, zone B.
D'accord ? Ça passait à 2 pièces.
Pour
je dis, mais attends, c'est pas normal. Pour 10%, tu me rajoutes pas le double. Et c'est quoi la réponse ? C'est que t'as quitté la routine. Dès que tu vas jusqu'à 10, il a son plan. C'est-à-dire qu'il va aller, il va faire l'aller, il va faire le retour. Il a déjà prévu, etc. Dès que tu lui mets 11, il peut pas faire le retour. Donc, du coup, il est bloqué la nuit. Donc, du coup, etc. Là, donc, du coup, la muraille se ferme. C'est-à-dire que tout change. C'est-à-dire que dès qu'on demande à quelqu'un de bouger un peu sa routine, c'est terminé. C'est la même chose. Je dis, attends, tu attends de l'autre que l'autre fasse des efforts. Mais l'autre, faire des avérotes, c'est sa routine. L'autre, faire des avérotes, c'est sa routine. Donc, quand tu lui demandes d'arrêter de faire des avérotes, tu lui demandes de casser sa routine. D'accord ? Non, c'est pas, elle est mauvaise sa routine, mais c'est quand même une routine.
Donc, il passe à deux
d'accord ? Est-ce que moi, je casse ma routine aussi ? Non, je le fais pas. Alors pourquoi tu critiques l'autre ? C'est pas bien ce qu'il fait. C'est grave ce qu'il fait. Mais c'est la vérité. Donc je peux pas le juger.
On n'est pas à sa place.
C'est pas seulement qu'on est. Si, on est à sa place. Parce que à sa place, on fait pas l'effort qu'on attend de l'autre. Ça, c'est le chidouche. Le premier palier du cours qu'on a expliqué la semaine dernière, on a dit ne le juge pas, tu sais pas ce qu'il a dans la tête, c'est pas son itzara, comment il est, etc. Ne parle pas, laisse-le dans son coin. Là, on te dit non, on te dit pourquoi tu le laisses dans son coin? Mets-toi à côté, compare-toi à lui, vas-y. Est-ce que moi je fais les mêmes efforts? Est-ce que je quitte ma routine autant que j'attends lui de quitter sa routine? Je lui dis mais attends, pourquoi il vient pas à la synagogue? C'est rien à venir à la synagogue, il peut venir 2 heures par semaine. Non. Pour lui, venir 2 heures par semaine, c'est casser sa routine. Est-ce que moi je casse ma routine 2 heures par semaine? Pas forcément. Et donc ça, c'est la réponse.
Donc on n'est pas
d'accord. Donc, si. Donc je suis à sa place et je fais pas mieux que lui.
Non, je me mets à sa place pour...
Oui, on se met bien. On se met
donc, je suis à sa place et je fais pas mieux que lui.
Si je me mets à sa place, je...
Donc je me tais.
Voilà, exactement.
Donc je me dis, je fais pas mieux que lui. Je fais pas mieux que lui.
Ouais. Donc on juge pas.
Ça veut dire, je peux pas critiquer un enfant qui porte 5 kilos au lieu de 10, si moi, au lieu de porter 5 ans, je porte 25. Parce que moi, à sa place, je fais pas mieux que lui. Relativement.
Hein? En fait, faut par ça, c'est 40
km. Par ça,
c'est
4 000. Par ça, je crois que c'est 960 mètres. 4 000. Bon, en tout cas, c'est la distance de l'époque, voilà. Alors, on va continuer.
En fait, tu veux dire, enfin, en gros, en clair, il faut schématiser, il faut toujours relativiser.
Ah oui. Voilà. Ça veut dire, quand tu juges quelqu'un, ne le juge pas comme tu te juges à toi.
Bien sûr.
C'est quoi le problème? C'est quand je juge l'autre, je dis oui, moi à sa place. Non, tu vas toi à sa place, parce que t'es pas à sa place.
Bien sûr.
Tu comprends? Je dis oui, mais regarde, lui, il fait. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut voir par rapport au niveau d'effort. Est-ce que lui, il fait. Est-ce que moi, je fais les efforts que j'attends de lui? Et là, ça change tout.
Ah oui.
Seulement, en général, malheureusement, on réfléchit pas comme ça. Comment on réfléchit en général? En général, on dit oui, regarde, moi, je viens à la synagogue, lui, il vient pas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Lui, c'est un enfant, toi, t'es un adulte. On compare pas un enfant à un adulte. T'as, bah, au Khachat, t'as grandi dans la Torah, t'es, si t'es religieux, etc. Ça compare pas. Quel rapport maintenant? On continue. Il dit, qui a l'omède mais hâte yoter mitivo. Celui qui étudie un peu plus que son habitude. Arezo milchamat tana. C'est une petite guerre. Ve en la erer ve dimion y milchamat a yetzer aboer ke esh de mikre rachagamour y menomet natser itro. Alors, et donc, ça ne ressemble pas à la guerre d'avec le yetzerara qui brûle comme le feu. De mikri rachagamur imeno menatzer itzro liot nishbar venir liot nichna venishbar bifne hachem. Ok. C'est très simple ce qu'il dit ici. Il dit, finalement, d'accord? Puisque moi, au niveau du combat, je me bats pas dans les combats que j'attends de l'autre, donc je suis pas mieux que lui. Maintenant, j'attends votre réponse. J'attends la réponse de vos plusieurs. Ils vont me dire, non, Mandy, c'est ce que tu dis, c'est pas bon. Parce que moi, la marge d'effort que t'attends de moi, c'est quoi? C'est le passé de 3 heures d'études à 3 heures et quart d'études. Mais l'autre, la marge d'effort qu'on attend, c'est d'arrêter d'avec les femmes. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas du tout comparable. Tu dis, ouais, marge d'effort, mais quel rapport? C'est pas la même chose. On est d'accord? C'est-à-dire, c'est vrai que tu peux dire relativement, etc. Ça aurait marché peut-être ton exemple. Si tu dis, moi j'étudie 3 heures, j'aurais dû passer à 3 heures et quart. Lui, il étudie 1 heure, il peut passer à 1 heure et quart. Ça, d'accord. Mais là, on parle pas des gens qui étudient un peu plus, un peu moins. On me parle de me comparer à un rachat absolu. Et de me dire que je suis au même niveau que lui, tu vois. De me dire, ouais, bon, je suis pas mieux que lui. Mais attends, quel rapport? Moi, je suis religieux, il n'est pas religieux, lui. Il fait des avérotes énormes. Il fait des avérotes très graves. Alors, écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit un point très, très fort. Ça, on va le dire dans les mots, on va commenter. On tourne la page. Page 62. Il dit quelque chose de très simple. Il dit « Umali prinat somera, umali prinat va aseto. » Au final, dans l'absolu. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence entre le domaine du négatif et le domaine du positif? Parce que c'est ça, finalement. Moi, ma marge d'effort est dans le positif. Faire un peu plus, faire plus de kavana, plus de mitzvot, plus de temps d'études, plus de bracha, plus de tfila, plus. Et lui, on le reproche sur le fait de ne pas se retenir, de ne pas faire des bêtises. Mais au final, par rapport à Dieu, faire le bien comme ne pas faire le mal, les deux sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Exactement, c'est la même chose.
C'est la même chose. Alors, c'est pas parce que ça me paraît plus grave que c'est plus grave.
C'est plus grave.
Oui, dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est la même chose. Dieu m'a demandé les deux. Donc, le fait de ne pas intensifier ou le fait de faire une bêtise, au final, j'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé. Donc, j'ai transgressé ce que Kadosh Baruch Hu, a demandé. Si c'était des mitzvot, si les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu étaient des mitzvot rationnels, là, on aurait pu les catégoriser. On aurait pu dire, bon, il y a des mitzvot plus importantes, moins importantes. Mais au final, rappelez-vous l'histoire de Hanouka. Chokei Retzonecha. Pourquoi les Grecs nous ont tellement embêtés? Parce que les Grecs, ce qui les dérangeait, c'est, rappelez-vous, on a fait cours sur ça il y a deux semaines, c'est le fait qu'on a donné aux mitzvot un caractère irrationnel. Toutes les mitzvot. Que pour nous, la mitzvah de ne pas manger du cochon, la mitzvah de la mitzvah, c'est toute la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Si les mitzvot étaient rationnelles, on aurait pu dire, attends, c'est pas la même chose. Rajouter un cadre d'études et ne pas aller avec une fille, c'est pas la même chose. Là, effectivement, rationnellement, c'est pas la même chose. Mais si tu réfléchis au fait que finalement, une mitzvah, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu, c'est un ordre. Alors, un ordre, tu l'as pas fait. Maintenant, que l'ordre y soit la couleur de la peinture ou que l'ordre y soit de ne pas aller voir la femme du patron, bah, un ordre, c'est un ordre, tu l'as pas écouté. C'est la même chose. Donc, si on réfléchit dans l'absolu, finalement, c'est la même chose. Donc, j'ai pas fait ce que Kadosh Baruch Hu, il m'a demandé. Alors, ce qu'il explique ici, d'accord? Vechen bishar mitzvot. Mais là, attendez, j'ai pas fini. Vechen bishar mitzvot. Maintenant, la Morazaké, il va nous donner des exemples pour montrer qu'en vérité, on se dépasse pas. Je peux pas en vouloir à l'autre qui ne se dépasse pas, parce que moi non plus, je me dépasse pas. On a eu plusieurs exemples déjà. Après, il donne volontairement plusieurs exemples parce que chacun se retrouvera dans ce qui lui parle. On a dit que, est-ce que je me dépasse dans l'étude de la Torah? Est-ce que je me dépasse dans l'accomplissement des mitzvot? Est-ce que je me dépasse dans la kavana des bénédictions? Est-ce que je me dépasse dans la kavana de la prière? Est-ce que je me dépasse dans la préparation à la prière? J'ai pas fini. Vechen bishar mitzvot, pareil dans les autres mitzvot. Ubifrat, en bas de la page 62, bedavar chez Bemamon. En particulier si on parle des mitzvot liés avec l'argent. Parce que c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont religieux, tant que ça touche pas à l'argent.
Ah oui.
Dès que tu touches à l'argent, money is money, d'accord? Torah is Torah. Vous connaissez pas l'histoire? Une fois, il y a le plus grand voleur de la ville. Il décide, il va faire teshuva. C'est la veille de Kippour, etc. Bon. Il va faire teshuva. Alors, il va voir le rabbin et il débat tout. Il dit, voilà, toute l'année, j'ai volé, j'étais chez un tel, j'ai volé ça, j'étais chez un tel, j'ai volé ça, j'étais chez un tel. Il fait teshuva, il débat tout. Et bon, le rabbin lui dit, voilà, il lui explique pour chacun Christophe. Il dit, lui, tu lui rendras comme ça, lui, tu lui rendras comme ça, lui, tu lui rendras comme ça. Il lui explique tout ce qu'il doit faire. Bon, il termine, le voleur, il s'en va, etc. Et après, une heure plus tard, la femme du rave, elle appelle le rave et lui dit, dis-moi, il manque le bougeoir en argent là, dans la salle à manger. Alors, bon, il a compris que c'était le voleur. Alors, il appelle le voleur, il dit, dis-moi, tu viens me faire teshuva et tu voles? Il dit, teshuva et teshuva, business et business. Évidemment, c'est compliqué à se dépasser. Alors, donc, concrètement, on va parler maintenant des choses sur lesquelles chacun de nous, on doit se poser sincèrement une question. Ça, c'est les techniques que je vous donne, qui nous donne ici le Tania, pour ne pas juger une autre personne. Pour ne pas le juger qui ne se dépasse pas. Pourquoi il ne se dépasse pas? Je dois me poser la question, est-ce que moi, je me dépasse? Donc, on a eu plusieurs exemples, on va rajouter un exemple lié à l'argent. Kemo avodat tzedaka. C'est intéressant. Quand on parle de la Gemara de la tzedaka, on parle pas de la mitzvah de la tzedaka. On parle de la avodat tzedaka. Alors, avodat, si je traduis avodat, ça veut dire quoi, avodat tzedaka? C'est le labeur de la charité. le labeur de la charité.
C'est dur.
C'est bizarre, il faut que je sente que ce soit dur. On raconte qu'il y avait une fois un Rav comme ça, le Rav Goutnik, qui était en Australie. Il a fait beaucoup d'affaires là-bas avec des mines, etc. Il a donné énormément de tzedaka. Quand vous allez en Israël, il y a beaucoup. Il s'est investi principalement dans les institutions de Torah. Il a donné à tout le monde, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est très, 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 très riche. Vous allez en Israël, vous allez un peu partout, Mahon Goutnik, Oulam Goutnik, etc. Un peu partout, à Jérusalem, à Nebrak, enfin, un peu partout. Et une fois en 91, il est venu voir le rabbi. Il a dit, Rabbi, quelle est la limite de la tzedaka? Et je vous dis que c'est quelqu'un qui donnait, hein. Il donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le rabbi, il a dit, il faut que tu sentes que ça te fasse mal. Tant que tu sens pas que ça te fait mal, c'est pas la tzedaka. C'est pas encore avodat la tzedaka. Avodat la tzedaka, le labeur de la tzedaka, c'est quand tu sens que ça fait mal. C'est comme une charge. Quand tu portes un truc, quand je porte un téléphone portable, c'est pas un labeur parce que je le sens pas. À partir de quel moment c'est un labeur? C'est quand je sens que ça force. Là, c'est un labeur. C'est la même chose. Alors moi, je dois me poser la question, même si c'est quelqu'un qui donne beaucoup la tzedaka, est-ce que je fais l'effort de la tzedaka? Est-ce que je sens que c'est un labeur? Est-ce que je me dépasse dans la tzedaka? Peut-être certains vont répondre sur la table, oui, c'est pas la question. C'est des pistes qu'il nous donne. Et la vérité, c'est que quand on prend ces pistes, il y aura au moins une ou plusieurs pistes sur lesquelles on dira, il a raison, je me dépasse pas.
Force avant la tzedaka.
Oui.
Maintenant, avec les moyens modernes, quand tu fais un virement, des fois, au bout d'un certain nombre de mois, bon, tu vois passer son compte, mais tu sens plus que ça pétille.
Ouais.
Mais sans pour autant que ton revenu il est augmenté ou que tes charges les aient diminuées ou quoi que ce soit. Alors, au début, quand tu l'as fait, le virement, c'était difficile.
C'était difficile.
De le faire, c'était difficile. Après, quand tu le sentais passer, c'était difficile. Mais après, c'est comme si c'était une habitude, sans être une habitude. Mais il n'y a rien qui a changé.
La mitzvah, elle est là.
Alors, est-ce que là, on est dans Avodat?
Ah non, on n'est plus dans Avodat, là, non. Mais Avodat Tzedaka, on le fait très rarement. Tu sais, c'est quoi Avodat Tzedaka?
Arrêter de prélèvement tous les mois et le remettre.
Ouais. Tu vois, c'est pas ça. Non, il y a deux choses. C'est quoi Avodat Tzedaka? Avodat Tzedaka, en vérité, ça se passe très rarement. Ça se passe au moment où on me sollicite. Et que je peux pas donner, c'est difficile, et que je fais un effort et je donne. À cet instant, je vais faire Avodat Tzedaka. Après tout le reste du temps, le virement qui va courir, ça c'est mitzvah tzedaka. C'est très important. Mais avodat tzedaka, est-ce qu'on fait beaucoup avodat tzedaka? Et ça veut dire que quand on se fatigue pour faire quelque chose, la mitzvah c'est autre chose, c'est une autre valeur.
Il faut faire la mitzvah de avodat tzedaka en permanence, ou c'est la première fois c'est avodat tzedaka et après c'est mitzvah tzedaka?
Non, la mitzvah c'est de donner la tzedaka. Seulement, là il explique à une personne qui juge une autre personne, qui dit pourquoi il se dépasse pas. C'est pour ça qu'on lui dit, je te retourne la question, est-ce que toi tu te dépasses dans les domaines qui te sont difficiles? Et là, évidemment, ça devient, là on comprend. Vous savez qu'il y a beaucoup de lettres de l'Admour Hazaken, des lettres qui sont à la fin du Tania, dans lesquelles il s'adressait à des gens qui étaient à la dèche, quoi, qui n'avaient rien. Et il leur demandait de donner la tzedaka. On a une trentaine de lettres que l'Admour Hazaken adresse aux Hassidim, des gens qui ont à peine de quoi manger, et qui leur dit, il faut donner la tzedaka pour les yeshivot en Israël, parce qu'ils ramassaient beaucoup pour les yeshivot en Israël. Et il leur disait, il faut se dépasser. C'est des gens qui n'avaient même pas à manger, ils avaient tout juste de quoi manger. Tu leur demandes, ça veut dire qu'il va manger moins à la maison. C'est ça ce que ça veut dire quand tu donnes la tzedaka. C'est ce qu'il dit à votre tzedaka. C'est pour ça qu'on comprend quand on lit ici, on comprend que on peut pas juger. Parce que c'est des choses que moi je me dépasse pas. Et chacun il se connaît. Chacun je connais ma marge, et je connais quand on peut dire que je me suis dépassé. Maintenant j'ai pas fini. Ukea et Gavna. Ah, ça c'est le pire. Ukea et Gavna, ça veut dire etc. Alors qu'est-ce qu'il veut dire dans ce etc. Alors dans ce etc, il veut dire, il inclut toutes les mitzvot qui ne sont pas définies. Par exemple, aimer son prochain. C'est quoi aimer son prochain? Comment on se dépasse dans l'amour du prochain? C'est quoi? Où est la limite?
Il n'y a pas de barème, mais
bon. D'accord. Faire du chesed avec les autres. La Torah te dit, tu aimeras ton prochain, tu fais du chesed avec eux. Où est le barème? Où il s'arrête le barème? D'accord. Il y a beaucoup de mitzvot comme ça. Mais aimer Dieu. Comment tu définis? Comment tu peux dire, je suis arrivé là, c'est bon, je suis arrivé? C'est les mitzvot très difficiles que tu peux toujours te dépasser. Et jamais tu auras fait assez. Est-ce que je me dépasse? Bien sûr que non, je me dépasse pas. Alors je peux pas juger une autre personne. Je peux pas juger une autre personne qui se dépasse pas. C'est ce qu'il veut dire ici. Alors, il explique ici maintenant, il dit, va filou, maintenant l'Admor Hazaken, il va continuer quelque chose de très fort. Il dit, va filou, alors on est à la page, en bas de la page 62. Va filou, biprinat surmera. Maintenant, il te dit, tu sais quoi? T'as voulu te défendre. T'as voulu dire, oui, non, mais c'est pas la même chose. Lui, le rachat, il fait des averot. Moi, juste, j'aurais pu rajouter des mitzvot. Il dit, non. On va te trouver des averot, toi aussi. Même le Benoni, on va te trouver des averot. Il dit, regarde. Yachol kol ish maskil, chaque homme qui réfléchit sincèrement, il pourra, limtso ben nafsho, trouver dans son âme, she'eino sar le gamre, me'ara, bakol mikol kol. Il y a toujours des éléments dans notre personne, des éléments négatifs qui nous restent. Et même si on croit qu'on a tout effacé, qu'on est religieux, il y a toujours des éléments négatifs en notre personne sur lesquels on ne se dépasse pas. Et il va donner des exemples. Bemakom she'tsarich le milchama atsuma. Des fois, il y a des choses qui nous demandent une guerre très difficile et qu'on fait pas cette guerre. Kegon, par exemple. Le'afsik be'emtsa sichana'a. Alors, imaginez, par exemple, que je suis en plein milieu d'une belle discussion. Une discussion comme ça, un sujet pétillant, etc. Alors, vous savez comment c'est. Au début, on commence à parler, c'est, on parle de tout et de rien. Et après, à un moment, je sens que je suis en train de bifurquer un peu la chanara. Mais c'est très soft, c'est très léger. Maintenant, je peux faire comme si de rien n'était. Il y a une petite voix qui me dit, attention, chanara. Ça se fait pas. Tu dis, ça fait un peu, c'est un peu relou. Tu vas dire, la chanara. Tu continues à parler. Une toute petite voix qui va te parler au fond de toi, tu l'écoutes pas. D'accord? Maintenant, il y a des fois des cas où c'est clair que c'est un lachanara. Il y a des cas où c'est pas vraiment un lachanara. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à la chanara. Par exemple, on va donner un exemple. Des fois, il y a un lachanara que je veux faire pour me nettoyer. Alors, ça veut dire quoi pour nettoyer? C'est le terme qui est employé après.
Disculper.
Pour me disculper. Ouais. Ça veut dire, par exemple, j'entends qu'on est en train de m'accuser de quelque chose, et moi, pour ne pas qu'on m'accuse, je dis, non, mais attendez, c'est pas moi, c'est lui. Non, t'es pas obligé de dire c'est lui, t'as envie de dire c'est pas moi. Enfin, pour donner plus de poids à ma parole, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire c'est lui. Ça s'appelle, c'est une sorte de lachanara. C'est un lachanara raffiné. Ça s'appelle un lachanara. Autre exemple. On est autour de la table en train de parler. On parle de monsieur Intel. D'accord? Ah, tu dis, ah, monsieur Intel, je préfère pas parler. J'ai rien dit. C'est un second, non, j'ai rien dit, il est bien.
Ah, c'est comme ça. Il est bien joué.
Ou bien, on est autour de la table. Et je sais que il y a une personne qui supporte pas monsieur Reuven. Et moi, je fais exprès. Je dis, ah, monsieur Reuven, la vérité, il est gentil. Donc, je te pousse à bout pour.
Pour
dire, non, mais attends, c'est pas ce que tu crois. Donc, le lachanara que tu vas faire, il sera à cause de qui?
Ah ouais. C'est moi le cas initié.
C'est des cas subtils. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara la poussière du lachanara. La poussière. Mais il y a plein de ça toute la vie.
Avec beaucoup de poussière, on fait des choses.
Ah, mais il y a plein, c'est bourré, la vie est pleine de ça. Ouais. Ça, c'est que pour citer l'exemple du lachanara. Autre exemple. Imaginez une personne, par exemple, qui est en train d'étudier la Torah. D'accord? Il est en train de... Je vous donne un exemple. Imaginez, je suis en train d'étudier la Torah. Voilà, ça c'est entre vous et Dieu. T'es pendant le cours, et à un moment, ta pensée s'en va. Ça nous arrive à tous. Mmh. D'accord? Là, autour de la table, par exemple, il y a peut-être 20% qui sont ailleurs. Leur tête est ailleurs. Ils sont en train de penser à ce qui s'est passé avec leur femme, ce qui s'est passé dans les affaires, ce qu'ils vont faire à la maison. Ils sont en train de penser à toutes sortes de choses. Il n'y a pas de problème. Maintenant, imagine-toi, voilà, je suis là maintenant au cours, ma pensée vient de divaguer, et je me rends compte que ma pensée vient de divaguer. Maintenant, J'ai deux options. Première option, j'ai dit, bon, attends, je suis en cours de Torah, j'arrête et je me reprends. Donc, je dis, bon, écoute, pas grave, je continue à réfléchir. Ni vu ni connu. C'est entre moi et Dieu. C'est des exemples comme ça qu'il veut te donner pour te montrer qu'en vérité, des cas où on ne se dépasse pas, on en a plein toute la vie. Plein. Toute la journée. C'est l'exemple qu'il donne ici. Donc, Va'afi Lukegon, par exemple. Le'afsik Bemsa Sihana. Donc là, il veut nous donner des exemples pour montrer que non seulement que le Benoni, qui veut juger l'autre, lui-même, il ne se dépasse pas pour faire plus de bien, mais il ne se dépasse pas même des fois pour ne pas faire de Avera. Par exemple, dans un cas comme la Shonara. Ok, donc on va suivre dans les mots ensemble. D'ailleurs, c'est une ségoula quand on suit dans les mots pour ne pas perdre le fil. Parce que, voilà. Alors.
En bas de la page 63.
Maintenant, on est 63. Kegon, par exemple. Au milieu de la page 63. Kegon, par exemple. Le'afsik be'emtsa sichana'a. S'arrêter en plein milieu de raconter une belle discussion. Ah, une petite discussion comme ça, bien juteuse. Ou bien, si pour Bignou Travero, ou bien une histoire qui est finalement Bignou Travero qui va porter atteinte à mon ami. Va filouk naik katan ve kalmeot. Non, mais c'est rien, c'est une petite chariote, c'est rien. Mais c'est que ça va porter atteinte à mon ami. Apshewemet, et même si ce que je sors sur la personne, c'est vrai ce que je dis. C'est-à-dire, c'est pas que je colporte quelque chose qui est faux, c'est vrai ce que je dis. C'est pas un mensonge. Va filouk edele nakotetsmo, même si c'est juste pour me disculper. Par exemple, on a un exemple. L'exemple qu'on ramène ici, c'était Vekano d'Ameha, comme c'est connu l'histoire. La Gemara raconte une histoire que, une fois, dans les mains de Rabbi Yehuda Hanassi, est arrivé ce qu'on appelle un get mekouchar. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi un get mekouchar. Un get mekouchar, d'accord, c'est un... Alors, le get, c'est un contrat. Un contrat qui est en général un get pour un acte de divorce. Non, maintenant, le mot get veut dire contrat. Parce que, get ne veut pas dire forcément acte de divorce. Mais là-bas, c'est un acte de divorce. Donc, il y avait un acte de divorce. Et écoutez la technique qu'ils avaient. On a une feuille de papier, tiens, voilà. Alors, c'est quoi un get mekouchar? Pour être sûr qu'il n'y a pas de falsification, qu'est-ce qu'on fait? On prend le parchemin, qui est là comme ça, et on le plie. D'accord? Alors, on va le plier, en général, du haut vers le bas. On le plie. On le plie. On le coud sur toute la ligne. Là, je le couds. Et il y a une signature des témoins sur la pliure. Ensuite, on le replie encore une fois. On recoud. Et on fait une signature des témoins. On replie. On recoud, etc. Comme ça, on replie, on recoud, etc. Et à chaque fois, signature des témoins, à chaque pliure, à la fin, le get est ça. Alors, c'est une technique qu'ils avaient à l'époque pour être sûr qu'il n'y a pas de falsification. Comme ça, on est sûr que, parce que bon, dès que tu le défais, tout de suite, tu vois que c'était défait. Pour être sûr que le contrat que tu as à la fin, c'est un contrat béton. Le jour où tu le défais, ce qui est écrit dedans, tu peux y aller, c'est tranquille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que normalement, d'après la halakha, la date du get doit être écrite dans le premier pli. Ça veut dire ici. Pourquoi?
Visible, alors.
Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Comme ça, si un jour une personne va dire oui, mais attendez, en vérité, la femme est partie avec un autre homme entre temps, avant qu'elle ait son acte de divorce, on dit regardez, voilà, la date est écrite ici. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois Rabbi Yehuda Hanassi, donc Rabbi Yehuda Hanassi, qui est le compilateur de la Mishnah, une fois il a eu un get comme ça qui lui arrivait dans sa main. Et dans ce get, il n'y avait pas de la date, il y avait la signature, mais il n'y avait pas de date. Le problème, c'est un get qui n'est pas daté, il n'est pas cachère. Ben, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être la date est à l'intérieur. Normalement, la date doit être à l'extérieur. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a vu ça, il a dit, bon, on ne va pas invalider le get. Peut-être que le get, il se trouve à l'intérieur. C'est pas bien. Peut-être que la date, c'est à l'intérieur. Normalement, on doit le mettre à l'extérieur. Peut-être que c'est à l'intérieur. Donc, ils ont commencé à défaire les plis. Ils ont défait, ils ont décousu, ça prend un temps fou. Et à la fin, ils ont vu qu'effectivement, par erreur, la date avait été écrite à l'intérieur. Donc, c'est comme ça qu'elle avait été faite. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il croyait que c'était son fils, Rabbi Shimon, qui avait écrit le get. Et donc, il a regardé avec un regard, pas dédaigneux, mais limite, quoi, du style...
C'est quoi cette erreur, quoi.
On ne fait pas des erreurs comme ça. Alors, Rabbi Shimon, pour se défendre, il a dit, mais papa, c'est pas moi qui ai écrit le get. C'est Yehuda Haïda. C'est Yehuda le couturier. C'est Yehuda le couturier qui l'a écrit. Alors... Encore là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que là, il n'est pas venu raconter la chanara. Comme il a vu que son père l'accusait, ou en tout cas lui faisait comprendre qu'il l'accusait de quelque chose c'était pas lui, c'était pas de sa faute. Donc, pour montrer à son père que c'était vraiment pas lui, que Pasta m'a dit en mensonge, il dit, écoute, c'est pas moi, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit son père quand il a dit ça? Qu'est-ce qu'il dit ici, la Gemara? La Gemara lui dit, Kanoda me'adama Rabbi Shimon le'avi Rabbeinu Akadosh. Rabbi Shimon, qui était le fils, c'est Rabbi Shimon qui est le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Il a dit à son père, il a dit, Lavana Katve, c'est pas moi qui ai écrit le get, c'est pas moi. Et là, Yehuda Haïta Katve, c'est Yehuda, le couturier qui l'a écrit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va Marley, il lui a dit, Kalach mi Lashonara. Il lui a dit, éloigne-toi du Lashonara. Ça veut dire, arrête de parler, tais-toi. Pourquoi arrête de parler? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire?
C'est pas moi.
C'est quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est quelqu'un de sérieux que je connais, mais c'est pas moi. T'es obligé de dire le nom? Pourquoi t'as besoin de dire le nom? C'est pas nécessaire. Maintenant, les commentaires disent que, il y en a qui disent que, Alpi Alakha, c'est possible de dire qu'il avait le droit de le faire. Parce que quand tu l'écris, c'est pas moi, mais que tu dis pas c'est qui, on va pas te croire. D'accord? Et peut-être qu'il a dit ça aussi pour que son père, il va aller, passer un sermon, d'accord.
C'est valable de
il va, non, mais c'est certainement le but aussi, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il aille à prévoir Yehuda Haïta, et qu'il lui dise, écoute, on fait pas un guet comme ça. Donc, il y a du bon dedans, tu peux tout cachériser. Il y a du bon dedans. C'est vraiment quelque chose de très très fin, etc. Et certainement que Rabbi Yehuda Hanassi aurait pris des pincettes pour parler à Yehuda le couturier, sans problème. mais quand même, par rapport au niveau de Rabbi Shimon, c'était reprochable. C'est du Lashon Hara. On appelle ça du Lashon Hara. À son niveau, c'est du Lashon Hara. Ouais, donc, combien de cas comme ça, on fait pas attention? Alors, il dit, Ayen Sham Bigmara Reshperinki de Baabatra. Donc, là-bas, quand il dit, la référence qu'il donne ici, le chapitre 10 de la Gemara Baabatra, là-bas, dans le chapitre 10 de la Gemara Baabatra, la Gemara, elle donne plusieurs exemples de ce qu'on appelle le Avak Lashon Hara. C'est la poussière du Lashon Hara. C'est les exemples que je vous ai cités. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, parler, d'accord, du bien de quelqu'un devant un ennemi à lui, qui va pousser l'ennemi à dire du mal, ou bien, même autre chose, dire trop du bien de quelqu'un. Quand tu dis trop du bien de quelqu'un, on va dire, attends, ça va.
Il n'y a aucun défaut.
Ça va. Il n'y a aucun défaut, celui-là. Des fois, à vouloir trop bien faire, tiens, celui-là, vraiment, quand la cavode, il a ça. Maintenant, moi, je veux bien faire. Mais à force de trop faire, il y a peut-être quelqu'un dans l'assemblée qui va dire, ça va, dis-moi, oh, bon.
C'est pas un saint.
Voilà. Et on ne sait pas. C'est des petits détails comme ça. Des petits détails. Tout ça pour nous montrer qu'en vérité, on est très très loin du compte et qu'on ne se dépasse pas. Et enfin, dernier exemple, ou bifrat, surtout, be'inan le kadesh à ce moment. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? On avait expliqué dans le chapitre précédent la notion de it kafia. Nickel, c'est quoi it kafia? Se dépasser même dans la nourriture. Tu veux un plat qui est kasher, tu vas t'en retenir. Non. Tu veux 3 boules de glace, tu prends 2 boules de glace.
D'accord?
Voilà, je veux pas la chantilly.
Tu veux rien, tu gardes rien.
Alors ça, pareil aussi. Est-ce que c'est une mitzvah qui est définissable, ça? C'est indéfinissable. On peut pas définir. Est-ce que je me dépasse dans ça? Tu te dépasses jamais en vérité, parce que tout ce que tu fais, c'est pas assez. Donc, ne juge pas. Ça, avec ça, on a atteint le deuxième palier de notre cours. Donc, à savoir, premièrement, on a dit, je le juge pas parce que je suis pas à sa place. Je sais pas quel Sahara il a sous le capot, d'accord? Deuxièmement, je le juge pas parce que moi, à sa place, je fais pas mieux que lui. Dans les choses qui me demandent des efforts, je me dépasse pas. Dans tous les exemples qu'on a cités, que je reciterai pas, d'accord? La Torah, la Tfila, les mitzvot, le Shonara, etc. Je me dépasse pas. Donc, je peux pas juger. Maintenant, on va continuer, on va aller plus loin que ça. Alors, Serge, si on s'arrête là maintenant, est-ce que je suis au même niveau que le rachat ou est-ce que je suis en dessous de lui? Là, pour l'instant, je suis au même niveau que lui. Parce que je me dis, je me dépasse pas, il se dépasse pas. Donc, on est match nul.
Alors, ouais.
Ou bien c'est un partout, un partout.
Bien, c'est déjà bien d'arriver.
C'est déjà pas mal. Déjà arriver à me convaincre que je suis au même niveau que l'autre, c'est déjà puissant.
Ah oui.
Maintenant, il va nous larguer une bombe. Je vais dire, tu sais quoi? Parce que n'oubliez pas ce qu'avait écrit la Mishnah. La Mishnah, elle dit que je dois me sentir cheval roar. C'est quoi cheval roar? Hein, Abraham, c'est quoi cheval roar? Plus bas que lui.
Plus bas, hein.
Alors, comment je suis plus bas que le rachat? Là, il nous faut le troisième palier. Comment je peux être pire qu'un rachat? Ok, au même niveau, je vais bien. Je le juge pas, je vais bien. Parce que je fais pas d'efforts, je me dépasse pas, pas de problème. Je suis pas pire que lui. Oui, je suis pire que lui. Pourquoi? Alors, on va expliquer. Alors, on est à la page. Oui, alors en plus, Vegam divrei sofrim, Chamorim divrei Torah. En fait, avant d'arriver à ça, je termine le deuxième point. Surtout si on parle de transgresser des commandements rabbiniques, qui sont quelque part plus graves que les commandements bibliques. Et là seulement, Shekol Elou Vekayotse Ba'en Em Me'avonot Che Adam Dash Be'ikvav. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit, tu sais pourquoi les avérotes que l'autre y fait me paraissent graves et celles que je fais me paraissent pas graves? Parce qu'il y a des avérotes qu'on piétine tellement avec nos pieds qu'elles nous paraissent être des choses qui ne sont pas interdites. L'autre, quand il fait une bêtise, il dit, ah, très grave, il a profané Shabbat. Mais moi, quand je fais un petit lachonara par-ci, une petite avéra par-ci, une petite avéra par-là, tellement j'ai piétiné, tellement je l'ai fait, que la fin, c'est fini. C'est un sentier battu, c'est fini, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, ce qu'il te dit, tu dis en vérité, quand tu réfléchis, dans l'absolu, c'est la même chose. Je suis comme l'autre. Dans le sens que je me dépasse pas comme Dieu me demande. Donc c'est pas bon. Donc je peux pas le juger, donc je suis au niveau que l'autre.
C'est infini.
C'est pour ça que le plus grand des tzadikim, il peut se sentir, en tout cas, à ce moment, pour l'instant, au même niveau que le plus grand des rachats. Je dis pas que ce que le rachat il fait c'est bien, c'est pas ce que j'ai dit. Et on parle pas de jugement au Gan Eden, c'est pas de ça que je parle. Je parle de, en train de juger, est-ce qu'il se dépasse ou il se dépasse pas. Je peux pas le juger pourquoi il se dépasse pas parce que moi, je me dépasse pas. Alors tais-toi. Ok. Alors, il dit Vegam naasuk eter mechamat shavar veshana. Alors, le pire, c'est quoi? La même avéra. Quand on fait une avéra plusieurs fois, Et ben, à force de la faire, elle devient permise. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bien sûr. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que non mais attendez, je vais être un peu cru. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que pour moi, la première fois que j'ai fait un lashon hara, je me sentais mal. Deuxième fois, troisième fois, pour dans ma tête c'est permis. Bah imaginez que l'autre c'est la même chose mais avec les femmes. Première fois il partait avec une femme, il se sentait pas bien par rapport à sa femme. Deuxième fois, troisième fois c'est permis. Kiff kiff, c'est la même chose. Exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passe chez moi, à moindre mesure, sur une petite avéra, ça se passe chez l'autre sur une grosse avéra. Seulement, quand tu piétines une avéra, à force de la piétiner, elle devient permise. Et même Rabbi Israël le Salant, qui est plus loin que ça, vous savez. Rabbi Israël le Salant, il va, hein, plus loin que ça, il dit que quand on fait une avéra trois fois, la Gemara dit quand on fait une avéra trois fois, l'avéra nous paraît permise. Rabbi Israël le Salant, il rajoute, il dit quand on fait une avéra quatre fois, tu vas même trouver des raisons pour te dire que la vera est une mitzvah. Ah, du style, le gars il va dire oui, bon, je vais aller tromper ma femme, et après quand je rentre à la maison, je serai mieux à la maison. Le cerveau, il peut te raconter n'importe quoi. Il peut raconter n'importe quoi, le cerveau. Et c'est ma boule. Et il est tranquille, il rentre avec le sourire à la maison.
On va 5 fois, il
fait une fête. Mais on fait la même chose pour la Shanara. On fait la même chose pour la Tfila. Regardez, rappelez-vous la première fois que vous avez parlé à un Kaddish. Ça te dérange. Deuxième fois, troisième fois, c'est fini, c'est devenu permis. Tu as oublié. Ça ne te dérange plus. Terminé. Comme ça, à chaque fois, on a plein de petites avérotes qu'on fait tous. D'accord? Des petites avérotes. Première fois qu'on a fait, ça nous a dérangé. Deuxième fois, troisième fois, après c'est terminé. Ça ne nous dérange plus. Donc c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas juger parce qu'on ne se dépasse pas. Et autant moi je comprends que c'est difficile, pour l'autre aussi c'est difficile. Prenez, je vais vous donner un exemple très simple. Prenez un juif par exemple qui ne met pas les tefilines. Je l'arrête dehors dans la rue, je lui propose de mettre les tefilines. Vous savez l'effort qu'il faut pour mettre les tefilines pour ce juif?
Il va te dire non.
Ouais. Il est avec ses amis, il est là, devant tout le monde. Tu dis il va s'arrêter parce qu'il y a un religieux, un barbu qui dit de s'arrêter. Mais c'est plus dur pour lui de s'arrêter à mettre les tefilines que pour moi de me demander de faire un jeûne entier. Ou de faire, je sais pas moi, de faire un... C'est très dur. C'est extrêmement difficile pour lui. C'est pour ça que je peux pas juger s'il refuse, parce que c'est très dur. Parce que moi, à sa place, je fais les efforts que j'attends de lui. Imaginez, il est là avec ses amis, etc. Et imaginez l'effort d'une personne qui met de côté tout le monde. Il dit à ses amis, attendez-moi. Il va mettre de côté, il se met de côté mettre les tefilines. Vous savez l'effort qu'il faut pour faire ça? Le dépassement de soi qu'il faut, c'est extraordinaire. Eh bien, ce dépassement, je ne peux pas juger parce que moi, je ne l'ai pas. Mais, maintenant, on va arriver au troisième palier de notre cours. C'est le plus fort. Pour expliquer comment, non seulement, je suis au même niveau que mon ami, et que lui ne se dépasse pas, moi non plus, mais plus que ça, je suis pire que lui. Pourquoi? Dis... Ça va être fort. Alors, étude du 21 Adar, page 65. Aval, Behemet, mais en vérité, Ibouyodé à Sefer. Si moi, je suis quelqu'un qui est familier de l'étude, j'ai eu la chance d'étudier la Torah. Ou machazik be Torah Hashem et que Baruch Hashem, je suis religieux. Vekirvat, Elokim Yarpat, et que je recherche la proximité de Dieu, ça veut dire que je suis dans le judaïsme, dans la religion toute la journée. Gadol avono mineso. Ma faute est plus grave que l'autre.
Moi, je me dépasse pas.
Vashmato gadla bekifle kiflaim. Et ma faute, ma culpabilité sera plus grave, bien plus grande. Bema shelonincha umidgaber alitro. Du fait que je me bats pas contre mon Yetzara. Parce que l'autre, celui que je vois en train de succomber dehors dans la rue, il a pas d'outils pour se battre avec son Yetzara. Il a pas d'outils. Il a une tentation qui passe devant lui. Comment il va se battre avec son Yetzara? Il a rien pour se battre. Il a pas étudié. Il sait que c'est pas bien. Mais comment il se bat? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il veut se retenir. Qu'est-ce qu'il fait? À part courir et s'enfuir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a pas d'outils pour se battre. Il a rien dans sa tête. Sa tête est vide. Mais moi, ma tête n'est pas vide. Donc, puisque ma tête n'est pas vide, lui, c'est un enfant. Un enfant, comment tu veux qu'il se retienne? Il sait pas comment se retenir, il a pas appris. Moi, je suis un adulte. Alors, c'est vrai que les choses sur lesquelles je dois me retenir sont des choses qui sont plus subtiles, qui sont plus fines. Mais d'un autre côté, moi, j'ai une chose que l'autre n'a pas. C'est que moi, j'ai grandi dedans. Moi, j'ai les outils pour me battre. Et moi, je sais me battre et je peux me battre. Donc, ma faute est plus grave que l'autre. Le fait que moi, je me dépasse pas, le fait que moi, j'ai fait un lashon hara, c'est plus grave pour moi que l'autre qui est parti avec une femme, d'une certaine manière. D'une certaine manière, bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, j'ignore pas la loi. Moi, je la connais, la loi. Et moi, je suis dedans. Bema, sheno, nilcham, umidgaber, alitrober, vren, ramatsuma, anal. L'autre, il a pas les outils, il sait pas se battre, c'est pour ça qu'il se bat pas. D'accord? Ça veut dire, un exemple. Imaginez un petit enfant. C'est un exemple que donne le Rav Stenzelt dans son commentaire sur le Tanya. Imaginez, par exemple, d'accord, un enfant qui prend un joli vase. Il voit que le vase est joli, mais bon, il comprend pas ce que c'est. Il prend ce vase, tac, il le jette par terre, il le casse, exprès. D'accord? Bon, il sait que le vase est important parce qu'il voit qu'il est bien placé, mais il comprend pas pourquoi le vase est important. Il sait pas où on l'a acheté, combien il vaut, pourquoi il vaut. Il comprend pas ça. L'enfant ne comprend pas ça. D'accord? D'un autre côté, imaginez une autre personne qui lui comprend la valeur de ce vase. Et que lui, on lui dit, attention quand tu le déplaces, déplace-le bien, et qu'il déplace mal. Ben, celui-là, d'une certaine manière, c'est plus grave ce qu'il a fait que l'enfant, parce que l'enfant comprenait pas ce qu'il manipulait. Donc même s'il l'a fait en faisant exprès, mais il comprend rien. Alors que moi, qui comprends, ben, ma petite erreur, elle me compte double et triple et quadruple, d'accord? Parce qu'il a dit kiflé, kiflaïm. Pourquoi? Parce que moi, je comprends ce que je fais. Donc moi, ma petite erreur, elle m'est comptabilisée quatre fois plus. Parce que moi, je comprends ce que je fais. Hein? Ça aurait été mieux.
Ignorant.
Hein?
Si tu ignores.
C'est trop tard. C'est trop tard.
Trop tard, Michael.
Ah non, mais c'est vrai. Tu sais, les gens bêtes, ils ont pas de soucis. Hein.
Exactement.
Tu sais, une fois, il y a M. Cohen, de l'auto-école. Il m'a dit les gens bêtes, c'est ceux qui passent le permis le plus vite. Non. Sérieusement.
Je pose moins de questions.
Il n'y a pas de questions. Genre, A, B, C, D, il faut exactement à l'identique.
On n'a pas tourné,
on n'a pas tourné. Lignes blanches, il n'y a pas, on ne pose pas de questions. Les gens bêtes, ils sont heureux.
Les autres, ils vont trouver un vice, il n'y en a pas.
Ce qu'il te dit, il te dit que finalement, le religieux, il a les outils pour se battre. Et plus, alors ça c'est horrible ça. Ça veut dire plus tu es sadique, plus tu es conscient de l'importance de ce que tu fais. Et plus on te responsabilisera pour des petits détails. C'est horrible, mais c'est la vérité. Et l'exemple qu'il a donné le Rav Stenzelt avec le vase est un exemple magnifique. C'est un exemple qui illustre ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que l'enfant qui a cassé le vase, finalement, qu'il ait fait exprès ou sans faire exprès, ça change pas grand chose.
Il avait pas conscience.
Parce qu'il a pas conscience. Alors que moi, d'accord, j'ai conscience. Donc, pour dire que j'ai pas fait exprès, il faut vraiment que j'ai pas fait exprès. J'ai fait exprès.
Tu l'as fait exprès, c'est-à-dire que tu peux pas. Tu as laissé quitter ton esprit.
Ah oui. Alors. Donc il dit maintenant, l'admor Azaken, on continue, il dit. Hey, Nashpatam Godlan. Il dit comme ça. Alors. Alors, on est à la page 65, trois paragraphes avant la fin. Bema, Sheno, Nilcham, Midgaber, Alitro, Ber, Prien, Milchama, Tsuma, Anal. Miachmat kal shebekalim miyoshvei kranot ayuchukim hashem v'torot. Ça explique à l'oral. Maintenant, il dit comme ça. Il dit ve'en hashmatam gedola kolkach. Ma faute est plus grave que la faute de ces simplets, parce que ces simplets, ils n'ont pas les outils pour se battre. Et qu'est-ce que tu veux quelque part? C'est pas vraiment de leur faute, ils n'arrivent pas à se battre. Ils ont un yitzhara qui est brûlant. Il est brûlant comme un four. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu lui dis, me retiens-toi parce qu'il faut avoir la peur de Dieu. Mais il ne connaît pas Dieu. Il sait pas c'est qui. Il sait quand il était petit, sa mère lui a dit, il y a un grand Dieu. Bon. La femme, elle est là, Dieu, il est en haut.
Là, tu parles de quelqu'un qui n'est
pas
éduqué. Hein? Quoi? Là, on parle de quelqu'un qui n'est pas éduqué. Mais il y a des gens aussi qui sont éduqués et qui arrivent à un moment donné et qui disent, écoute, ces éducations, elles ne m'intéressent pas. Je change de trottoir.
Peut-être qu'on ne l'a pas assez éduqué. Peut-être que l'éducation qu'on lui a donnée ne lui parlait pas.
On l'a mal appris.
On lui a mal appris, par exemple. C'est très compliqué à juger.
Non, bien sûr.
Peut-être qu'on n'a pas réussi à le sensibiliser à l'importance de ce qu'il fait, donc il n'était pas conscient. Alors que moi, je suis conscient de ce que je fais. Ça veut dire que ma petite transgression du Shabbat, quelque part, est plus grave qu'un autre juif qui transgresse le Shabbat. Parce que moi, je suis conscient de la gravité. C'est ma petite transgression, comme ça, un petit détail, c'est plus grave. Parce que je suis conscient de ce que je fais. Comme l'exemple de, exactement comme l'exemple du vase. Alors, Keshmat kol karev karev elashem el torato vavodato. Donc, comme on disait, on peut pas comparer, je tourne la page, d'accord? On peut pas comparer une personne qui est ignorant et lui dire, hey, t'aurais dû te retenir parce qu'il faut avoir la peur de Dieu, à une personne qui sait ce que c'est Dieu, qui a appris ce que c'est Dieu. Ok? Ukmama razal gabe acher. Comme les Chachamim disent à propos d'un grand maître qu'on a connu, qui s'appelait Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya, c'était un des plus grands maîtres qu'on a connu de la Mishnah. C'était le maître de Rabbi Meir. Juste pour vous dire, chaque fois qu'on a une Mishnah dans laquelle il n'y a pas de nom, on n'a pas d'auteur, la majorité des avis disent que dans ce cas-là, c'est Rabbi Meir. Et le maître de ce Rabbi Meir, c'était qui? C'était Elisha ben Avuya. Pour vous dire qui c'était. Ça veut dire que tout, pratiquement, une, je ne sais pas combien de pourcentage, mais un pourcentage très très important de la Torah qu'on a aujourd'hui, ça vient de lui. Elisha ben Avuya. Et ce Elisha ben Avuya, il a quitté le chemin de la Torah. Et comment on l'a appelé? Tellement on l'a appelé Acher, l'autre. Maintenant, on continue à citer ses commentaires, parce que ses commentaires avant qu'il a fauté, même après d'ailleurs, bon, c'est des commentaires importants. Pourquoi on l'appelait Acher? Pourquoi on l'appelait autre? Parce que sa faute était très grave. C'est pas quelqu'un qui connaissait pas. Lui, il connaissait. C'était un maître de la Mishnah, il connaissait. C'est pour ça que sa faute est très grave. Sa faute est beaucoup plus grave qu'un autre qui fut refusé mille fois plus. Parce que lui, Acher, il comprenait ce qu'il faisait. Il comprenait la gravité de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que du ciel, on l'a pas laissé faire teshuva. On l'a pas laissé faire teshuva. À un moment, on dit que Acher, ce Acher, bon, il a fait beaucoup de bêtises, d'accord? Et on raconte qu'une fois, il y a une... Bon, peu importe les détails, d'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui lui a dit, tu pourras jamais faire teshuva. Et il a entendu une voix du ciel à ce moment-là, qui lui a dit, et qui disait à tout le monde, revenez enfant rebelle, sauf Acher. En d'autres termes, tout le monde peut revenir, sauf Acher. Alors, c'est clair que s'il aurait forcé la porte, s'il avait forcé la porte, il aurait pu rentrer. Mais on lui a mis des barrages. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fait tellement grave? Là-bas, la Gemara explique. Elle dit, Sheyada Birvodi. Pourquoi Dieu s'est énervé? Il a dit, Acher, je ne veux pas le laisser rentrer parce que Acher connaissait mon honneur. Elisha ben Avuya connaissait mon honneur. Il savait le Kavod HaKadosh Baruch Hu. Et quand même, il a fait, quand même, il est rentré.
Comment ça se fait qu'il connaît à un point que. À un point apparemment très important. Et comment il peut changer de truc?
C'est le libre arbitre. Il avait des questions. Il avait des questions.
Ouais. De haut, d'aussi haut, il peut tomber.
Oui, je crois que l'histoire, c'est pas celui qui avait son petit garçon, il a dit, va monter prendre.
Oui, oui, bon, c'est une des histoires. C'est-à-dire qu'il a vu des choses qui lui paraissaient incohérentes, parce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles dans la Torah, qu'on n'a pas encore comprises. Donc il a vu des incohérences, et cela. Ça veut dire à son niveau, il avait la possibilité de se battre avec ça, et il l'a pas fait. C'est pour ça que dans la Gemara, on n'a même pas gardé son nom. Je ne sais pas si vous voulez dire, c'est même un rachat. Un rachat, il garde son nom. On l'appelle pas Rabbi, mais il garde son prénom. On voulait même pas citer son prénom. On l'appelle l'autre.
On le cite.
Oui, non, mais très rare. Je veux dire, Léavdil, l'autre personne qu'on connaît, c'est voilà. C'est très très rare dans la Gemara les gens qu'on appelle l'autre. Ouais, l'autre.
Il n'est pas du niveau de l'autre, quand même.
D'accord. J'ai pas dit ça. Mais
Rabbi Meir aussi, on l'appelait Acherim.
Oui, parce qu'il fréquentait. Mais d'une certaine manière, on voit que pourquoi on lui en voulait beaucoup. On lui en voulait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a connu la Torah et qui est parti. Donc ça, c'est pour prouver quoi? C'est pour prouver ce qu'on vient de dire. Que quand je connais la Torah, c'est infiniment plus grave que celui qui ne connaît pas. Maintenant, on va comprendre une grande phrase de la Gemara. Attendez, excusez-moi. La Gemara nous dit dans le traité Bava Metzia. On va lire ensemble. La Gemara a dit dans le traité Bava Metzia, Alame Haaretz, à propos des ignorants. Alors, c'est quoi le Amaretz? Le Amaretz, c'est une personne qui est bon dans les affaires, mais qui n'est pas bon dans la Torah. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est ignorant. Ça c'est le Amaretz. C'est pas un imbécile. C'est une personne qui ne connaît pas la Torah. Alors, chez Donot, Naasulem, Kishgagot. La Gemara a dit que le Amaretz, les fautes qu'il fait en faisant exprès lui sont comptabilisées comme des fautes qu'il a fait par inadvertance. C'est un kiff, hein. Vous voulez pas en devenir un maharette?
On est déjà.
Vous voulez pas on change la cartouche?
On est déjà.
On devient ignorant comme ça, tranquille. Il faut te dire bon, ça va aller par inadvertance. Mais bien sûr que c'est par inadvertance. C'est pas qu'on dit qu'il a fait sans faire exprès, mais ça veut dire que quelque part, il a beaucoup de circonstances atténuantes. Circonstances atténuantes que nous n'avons pas.
Donc on ne dit pas nul n'est censé ignorer la
vie. Ah ben surtout pas. Pas du tout. Dans la Torah, on ne dit pas ça. Donc, Rabotai, pour conclure, ce qu'on a compris d'aujourd'hui, on a compris maintenant comment, en vérité, on doit se sentir plus bas que tout le monde. Pourquoi ? Trois points. D'abord, je ne peux pas juger l'autre, parce que je ne sais pas la place, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, je ne sais pas ce qu'il a sous le capot. En plus, est-ce que je me dépasse de la même façon que j'attends de lui de se dépasser ? La réponse est certainement non, en tout cas dans un ou plusieurs domaines qu'on a cités. On a cité une bonne quinzaine de domaines. Dans ces quinzaines de domaines, c'est sûr qu'il y en a un ou plusieurs sur lesquels je ne me dépasse pas. Donc tais-toi. Deuxièmement. Troisièmement. Je suis pire que lui. Pas toi, hein, t'es un sadique. Je suis pire que lui. Pourquoi je suis pire que lui ? Je suis pire que lui parce que lui est ignorant. Et lui, c'est vrai qu'il fait des grosses bêtises, mais quelque part, il a rien pour le retenir. Donc, non, j'ai pas dit qu'il est pour retenir, doucement. J'ai pas dit ça. On va pas cachériser le cochon non plus. Doucement. Mais.
Non, c'est quand le mec qui a pas de permis de conduire, il va faire une erreur alors que toi t'as 10 ans de permis.
Quelque part, il est pour rien. Ça veut dire que quelque part, il est pas. On peut pas le juger. Parce qu'il comprend pas ce qu'il fait. D'accord ? Alors que nous, plus on est religieux et plus on comprend ce qu'on fait. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il est makpid, il est pointilleux avec les tzadikim, sur même un cheveu. On dit qu'un tzadik qui débatte même d'un cheveu, Dieu il est pointilleux avec lui. Maintenant on comprend. C'est normal. Quand il y a une personne qui est là, qui porte un jean, on s'en fiche, il y a une tache. Mais quand tu portes un vêtement en soie, d'accord, la moindre petite tache fait tache. C'est évident, c'est logique. C'est la même chose. D'accord. C'est pour ça que, ça c'est pour nous montrer que c'est très difficile, c'est dur à entendre. Ça veut dire que le petit rachat que vous connaissez dans la famille ou dans les collègues, etc., vous allez le regarder dans notre œil.
C'est difficile d'avancer, et après, quand tu as avancé, on te dit qu'il faut encore avancer. Et quand tu as avancé, c'est pas assez. Et puis après, quand tu as avancé, il faut que tu avances sous terre. Et puis, si tu as le malheur de lever la tête.
Non, on n'a pas dit ça. On a dit ne regarde pas l'autre d'en haut. C'est ce qu'on veut pas. Sois content du chemin que tu as fait, c'est très important ça. Mais ne le regarde pas du haut, de dire. Regarde, lui, il fait pas, moi, je fais. Non, ça marche pas. Et c'est comme ça qu'on explique cette Mishnah dans Pirkei Avot, qui dit, Ve'eveshfalroar bifne kol ha'adam, sois humble bifne kol ha'adam, devant tout le monde, même devant des gens que leur seule qualité, c'est d'être des êtres humains, d'accord? Des créatures que Kadosh Baruch Hu a créées. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on étudiera avec Bezrat Hashem à partir de la semaine prochaine? C'est d'expliquer, de commencer à donner des techniques, comment arriver à la Simra. C'est-à-dire, comme tu as dit, Michael, une fois qu'on réfléchit à tout ça, je dis, mais attends, c'est très dur. Alors, même quand je fais bien, tu me dis, non, mais attends, c'est pas assez, t'es plus bas que l'autre. Alors, comment tu veux gérer la simra? Et pas seulement une simra, simulée. Une vraie simra. Pas une simra, on l'a servi, il a dit les chaïm, il est parti. Une vraie simra. Comment on arrive à la vraie simra? Ça, c'est la semaine prochaine. Hein?
Après les vacances. Razak. Oui, qu'on fasse. Moi j'ai déjà fait.
Tout le monde est là la semaine prochaine ?
Oui, bien sûr.
Tout le monde est là ?
Ok. Alors, qui n'a pas
perdu ? A priori, je suis là aussi pour le moment, donc voilà.
Levez la main, qui n'a pas perdu vite ? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est bon. Je vais vous aider.